Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, les entreprises gâtent-elles trop leurs actionnaires? Certains chiffres sont éloquents, ils n'en sont pas moins trompeurs. Ceux publiés il y a 15 jours par Oxfam appartiennent à ce double registre. Dans un rapport intitulé CAC 40, des profits sans partage, on apprend que les actionnaires sont, de loin, les principaux bénéficiaires de la redistribution des profits dans les grandes entreprises françaises. Sur la période 2009-2016, ils en ont capté 67,4%, ne laissant que 27,3% pour le réinvestissement et 5,3% pour les salariés. Alors le déséquilibre est flagrant, mais très vite, des critiques ont pointé les défauts de la méthodologie d'Oxfam. Parmi les principaux reproches adressés à ce rapport, le fait de ne pas prendre en compte les salaires dans le partage de la richesse, le fait d'oublier les investissements réalisés avant la redistribution des bénéfices. Pour autant, cette étude mérite de ne pas être écartée trop vite, car 10 ans après la crise qui devait accoucher d'une réforme du capitalisme financier, la question de la dépendance des entreprises à leur actionnariat et celle de la répartition de la valeur ajoutée ne semble pas avoir beaucoup avancé. Alors les entreprises gâtent-elles trop leurs actionnaires? C'est le thème de la discussion de ce soir et c'est en quelque sorte la suite de l'émission que nous vous avons proposée il y a tout juste 15 jours, que nous avions intitulée « Les entreprises peuvent-elles se contenter de faire du profit ?» Il s'agissait de réfléchir aux missions des entreprises. Ce soir, c'est donc sur la répartition de cette richesse que nous allons réfléchir en compagnie de deux invités. Jean-Charles Simon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, président de l'entreprise Stacian, qui est une entreprise d'intelligence statistique et d'analyse économique. Je dis Stacian, c'est peut-être Station d'ailleurs.
Station,
oui. Je devrais le savoir puisque vous êtes déjà venu plusieurs fois dans cette émission. Vous avez été candidat à la présidence du MEDEF, vous ne l'êtes plus.
Voilà, jusqu'à il y a une dizaine de jours, j'ai été en effet candidat à la présidence du MEDEF.
Deuxième invité, Cédric Durand, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste, maître de conférence à l'Université Paris 13, vous êtes membre des économistes atterrés et vous avez publié en 2014, c'est votre dernier ouvrage, Les prairies ordinaires, enfin dernier ouvrage en date bien sûr, Le capital fictif, ça c'est le titre du livre, Comment la finance s'approprie notre avenir. Alors je voudrais qu'on évoque avec vous ce soir cette question de la répartition et pour commencer peut-être la répartition des profits entre les actionnaires et les salariés. D'après le rapport Oxfam, cette répartition, elle est donc de 67,4% pour les actionnaires des entreprises du CAC 40 sur cette période que j'évoquais tout à l'heure, 5,3% pour les salariés, c'est un rapport de 1 à 12. Cédric Durand, est-ce que ça veut dire que les actionnaires sont 12 fois mieux traités que les salariés?
Alors ça dépend de quoi on parle. Si on parle des profits, effectivement c'est le cas. Mais l'ensemble de la rémunération des rapports entre salariés et capital doivent être considérés du point de vue de la valeur ajoutée. Donc là c'est un point de clarification qui est important à faire. La valeur ajoutée c'est quoi? C'est l'ensemble des ventes, des revenus d'une entreprise à laquelle on soustrait les coûts. Et cette rémunération-là se répartit ensuite entre travail et capital, entre donc salaire et profit. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de surprise à ce que les salariés touchent une part majeure de cette valeur ajoutée. Après tout, c'est eux qui produisent la richesse. Et le capital n'est rémunéré qu'au titre de l'avance des fonds qui ont été faits. Alors, néanmoins, donc, juste pour préciser, on a bien donc deux choses. La valeur ajoutée qui se répartit entre profit et salaire, et les profits eux-mêmes. Et les profits, c'est quoi? Je pense que cette question, c'est le grand mérite du rapport d'Oxfam, c'est de soulever la question de ce que sont les profits et quel est l'usage qu'on peut faire des profits. Et bien finalement, les profits, c'est le surplus social réalisé une année. C'est ce qui n'a pas été dépensé au cours d'une année par les acteurs économiques. Et celui-ci, on va se poser la question de ce qu'on en fait, effectivement. Est-ce qu'on le réinvestit dans l'économie? Est-ce qu'il va être consommé plus tard par les détenteurs de capitaux? Donc voilà la question qui se pose. Et ce que montre le rapport d'Oxfam, et qui est extrêmement fort, c'est que depuis la crise, progressivement, on a observé une augmentation du niveau de distribution des dividendes en faveur des actionnaires. Et on retrouve aujourd'hui les niveaux d'avant la crise de 2007-2008, des niveaux qui ne sont pas soutenables. Ce niveau est extrêmement élevé et ce niveau n'est pas associé à une économie qui va véritablement mieux. C'est ça qui est particulièrement choquant. Aujourd'hui, la situation est complètement une situation de retour à l'avant-crise du point de vue des actionnaires, alors que ce n'est pas le cas dans l'économie réelle.
Jean-Charles Simon, est-ce que vous partagez cette première analyse?
Pas vraiment, en fait, je pense qu'on pose assez mal les questions. Le rapport d'Oxfam, déjà, enfin, c'est une approche assez militante, où on essaie de venir regarder ce qui est fait des bénéfices. on ne prend pas la bonne notion plus des bénéfices, parce qu'en fait, les bénéfices là, qui sont utilisés, c'est ceux qui sont publiés en normes comptables internationales. Je suis désolé d'être un peu technique, c'est la norme IFRS, qui ne sont pas forcément la mesure du cash généré dans l'entreprise. C'est deux choses assez différentes même parfois. Par exemple, le rapport s'intéresse à Engie en disant Engie, c'est absolument incroyable, scandaleux, ils ont eu des années de déficit et ils distribuent du profit. Mais les années de déficit, ce n'est pas des années de perte de cash. Au contraire, c'est même des années parfois où il y a eu beaucoup de cash généré. C'est des années où, en normes comptables, on a retraité des valeurs sur des participations dans des sociétés, dans des actifs, et qu'on a déprécié. Mais ça ne veut pas dire que l'entreprise a perdu de l'argent cette année-là. Donc en fait, toute la méthode est un peu brouillonne et veut pas dire grand chose. Si vous voulez, on parle beaucoup de chou et de carottes, ça veut pas dire grand chose. Ça a pas de leçon à donner, alors qu'on sent que c'est un peu la volonté sur l'ensemble de l'économie française, parce que là on parle d'entreprises qui sont très mondiales, qui sont pas représentatives vraiment de l'économie française. On parle des seules entreprises cotées, les plus grandes d'entre elles. Là aussi, c'est pas vraiment représentatif de l'économie. L'économie, c'est pour une très large part des entreprises non cotées, des petites entreprises. Et donc, on a plein de choses qui sont très différentes en fonction de toutes ces natures d'entreprises. Il faudrait regarder une par une. Ce qu'on avait fait avec Jean-Philippe Cotis, le patron de l'INSEE en 2009, on avait essayé de faire tout un détail justement là-dessus sur le partage de la valeur. Donc, comme ça a été dit par M. Durand, sur le partage, ce qu'on appelle primaire, entre le travail et le capital. Et puis ensuite, sur l'utilisation de la part des profits, comment ils étaient répartis, qu'est-ce qu'on en faisait.
Mais est-ce que ça veut dire que la comparaison entre des chiffres qui sont donnés, c'est-à-dire en gros deux tiers des profits qui vont vers la rémunération des actionnaires et 5% seulement pour les salariés, ça ne veut strictement rien dire pour vous? Ça veut quand même
quelque
dire quelque chose
sur les salariés. D'ailleurs, ce qui est assez paradoxal et étonnant, c'est que ceux du CAC 40 sont probablement parmi les mieux traités. C'est ceux qui à la fois ont des salaires, on le sait, les grandes entreprises, elles distribuent des salaires à qualification égale, poste égal, supérieurs à ceux des autres entreprises. C'est pas une question de vertu, puisqu'elles attirent et elles ont cette capacité-là. Et par ailleurs, elles ont aussi plein d'instruments d'associations au capital, y compris certains qui ne sont pas mesurés là-dedans, qui sont les associations en actions. C'est-à-dire qu'en plus de donner du cash, on donne aussi des actions aux salariés. Et ça, ce n'est pas compté dans le rapport. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est que...
Ce n'est pas compté non plus, cela dit, du côté des actionnaires. Parce qu'on peut, quand on est actionnaire, on touche des dividendes.
Alors que
on peut aussi faire fructifier son capital.
Il y a les rachats d'actions, qui est un autre sujet qui est encore un traitement différent. Mais en fait, beaucoup de choses se regroupent. Et en plus, contrairement à ce qu'on pense, verser des dividendes n'est pas faire un cadeau en soi particulier à l'actionnaire. Si on n'a rien d'autre à lui proposer, ça va venir diminuer toute chose égale par ailleurs, la valeur de l'action qui est aussi quelque chose à laquelle il tient. Parce que lui, comme actionnaire, ce qu'il veut, c'est de la plus-value et du dividende. Donc, il faudrait regarder les deux ensemble. Donc, c'est en fait assez complexe et ça ne donne pas beaucoup d'enseignement. Et surtout, ce qui me semble majeur, c'est qu'en fait, une entreprise, quand elle veut s'interroger, ce qui est pour le coup tout à fait légitime, parce qu'il y a des rapports de force dans l'entreprise, je ne le nie pas du tout, quand on va dire, est-ce que les salariés doivent avoir plus que ce qu'ils ont aujourd'hui, la première décision, elle va se faire sur est-ce qu'on fait augmenter la masse salariale, toutes choses égales par ailleurs. Et ça ne vient pas être perçu dans le bénéfice, ça va être avant le bénéfice. Et donc ça, c'est majeur, et ce n'est pas du tout pris en compte dans le rapport. Donc le rapport, pour moi, il peut poser des questions intéressantes, mais la façon dont il les traite ne sont pas du tout des réponses satisfaisantes.
Est-ce que la bonne façon peut-être de poser la question, ça serait de se demander, Cédric Durand, et ça s'adressera également à vous Jean-Charles Simon, de savoir si globalement la rémunération des salariés a augmenté ou diminué d'ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas a progressé de la même manière que la rémunération des actionnaires. Et ce serait ça la bonne façon justement de le comparer. Et comment est-ce qu'on peut répondre d'ailleurs aujourd'hui à cette question, Cédric Durand?
Oui, je pense que c'est une bonne question à poser, c'est une partie de la question, et c'est la dynamique des inégalités depuis la crise. Une dynamique des inégalités qui, dans l'ensemble du monde développé, a favorisé ceux qui vivent des revenus du capital, et donc les revenus les plus élevés. Et de ce point de vue-là, ce que montre le rapport très bien, c'est que là, on ne parle pas en part des profits, on parle en niveau de dividendes. Le niveau absolu des dividendes et le rapport entre les niveaux de rémunération des dirigeants et des salariés n'ont cessé de s'accroître dans cette période-là. Les dividendes ont augmenté de manière continue et les dirigeants des grandes entreprises gagnent de plus en plus par rapport à leurs salariés. Donc ces écarts manifestent un premier problème dans le capitalisme actuel. C'est un problème que nous avons un capitalisme injuste, injuste, qui ne rémunère pas le salariat à la hauteur de sa contribution à la richesse.
Même mais si le ministre de l'économie dit ceci, ouais. Il s'attache uniquement aux entreprises du CAC 40, il dit les salaires sur la période ont augmenté de 2 à 4%, c'est comparable à la rémunération des actionnaires. Est-ce que vous diriez finalement, comme Jean-Charles Simon, que les salariés des entreprises du CAC 40 ne sont pas forcément les plus mal lotis?
Donc ça, c'est absolument juste. Hein, c'est absolument juste. Il y a une hiérarchie dans les entreprises et dans les salaires qui font que les entreprises du cœur du capitalisme national et du capitalisme mondial ont des niveaux de rémunération plus élevés que les sous-traitants et encore davantage que les sous-traitants. Et la statut des salariés est plus fragilisée à la périphérie de ce capitalisme-là. Donc ça, c'est vrai. Et c'est vrai que ce rapport-là ne traite pas de cette question-là. Hein, les inégalités salariales vont au-delà de la dynamique des inégalités seulement à l'intérieur des grands groupes. Mais il me semble qu'il y a une deuxième dimension qui est très importante à traiter et qui est liée à ce rapport. C'est qu'avec l'augmentation des dividendes et des rachats d'actions, l'ensemble des revenus finalement des actionnaires, on constate qu'il y a une absence de projet des grandes entreprises françaises. Aujourd'hui, ces grandes entreprises françaises, elles distribuent de l'argent et elles n'investissent pas. Alors même que le niveau d'endettement et le coût de la dette est extrêmement faible. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose d'extrêmement triste dans ce constat-là. C'est que finalement, Monsieur Simon avait raison tout à l'heure de souligner le fait que, du point de vue de l'actionnaire, investir ou recevoir des dividendes, finalement, c'est la même chose. Dans les deux cas, il s'enrichit. Le fait que les entreprises fassent le choix de distribuer des dividendes plutôt que d'investir révèle l'absence de projet du grand patronat français.
Jean-Charles Simon.
Moi, je suis pas contre l'idée de débattre de ça, sur, enfin de diagnostiquer le fait qu'il y a en effet un sujet, parce que je suis assez marqué par les thèses de la stagnation séculaire, il y a un vrai sujet, mais qui est pas du tout français. Alors là, pour le coup, où je contesterai la fin de votre affirmation, c'est l'idée patronat français, il y a un sujet global, mondial, qui est qu'effectivement, et on le voit avec les grandes entreprises de la tech américaine qui ont des montagnes de cash comme rarement on l'a vu. Il y a deux sujets pour moi derrière ça. Il y a le fait que le profit a tendance à se concentrer dans les grands groupes au sein de l'économie. Et ça, c'est un vrai sujet. Parce que ça veut dire qu'il y a des phénomènes un peu oligopolistiques, monopolistiques qui sont à l'œuvre. Et encore une fois, c'est très visible dans les grands groupes de la tech mondiaux parce que c'est eux qui sont les plus impressionnants en la matière. Et effectivement, des groupes qui, par ailleurs, dégagent cette forme de rente sur l'économie et qui, visiblement, ont du mal à trouver quelque chose à en faire, à part, justement, racheter des actions ou distribuer à l'actionnaire. Ce qui, encore une fois, je le dis, ne signifie pas que quand on a fait ça, on a enrichi l'actionnaire. Peut-être même que c'est même pas une bonne idée. D'ailleurs, par exemple, à l'époque de Steve Jobs, Apple distribuait jamais de bénéfices, de dividendes, pardon, excusez-moi, parce que Steve Jobs considérait que la façon dont l'entreprise progressait était en soi le mieux qu'il pouvait faire et qu'il fallait mieux qu'il laisse l'argent dans l'entreprise. Donc c'est pas toujours et l'action était très populaire auprès des investisseurs. Donc c'est pas toujours le meilleur signal qu'on envoie auprès des actionnaires que de distribuer beaucoup de dividendes. Je pense que en revanche, il faut bien voir que si on veut prendre la question des inégalités, beaucoup des dividendes, les dividendes, ils vont pas à des personnes morales, inconnues ou à des martiens. Ils vont à des personnes physiques. Et le vrai sujet qu'on a, me semble-t-il, c'est que ces personnes physiques, qui d'ailleurs sont parfois les salariés sont actionnaires, il y a des groupes du CAC 40 qu'on cite parfois, où les salariés représentent plus de 10% du capital. Donc eux aussi reçoivent ça. Et il se trouve, et ça c'est une vraie différence entre la France et les autres pays, c'est qu'en France, en revanche, il y a peu de gens qui, au titre de leur retraite, reçoivent des dividendes. Il y en a parce qu'on en a dans notre assurance vie, dans notre PEA, mais on en a plutôt moins que dans d'autres pays où les fameux dividendes, et bien en fait, ils vont aux particuliers, ils vont aux personnes physiques. Alors, ça ne règle pas du tout, bien entendu, toutes les questions sur les inégalités de revenus et la concentration de ces partages, ça je suis tout à fait d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne s'évapore pas nulle part. Et en plus, ça subit des prélèvements fiscaux et sociaux assez importants, le dividende, qui reviennent à l'État et à la puissance publique et qui sont, d'une manière ou d'une autre, une forme aussi de redistribution.
Quand vous dites ça ne s'évapore pas nulle part, ça peut sembler s'évaporer quand on est salarié. Est-ce qu'en tout cas, il y a forcément un lien entre une entreprise qui, plus elle va verser de dividendes aux actionnaires, moins, du coup, elle aura la capacité à verser de bons salaires. Et inversement, d'ailleurs, peut-être.
Il n'y a qu'un modèle. Je pourrais vous citer un secteur que je connais très bien, par exemple la réassurance, où on a en fait des gens qui prêtent leur capital. C'est une façon de faire et on a l'habitude de verser beaucoup de dividendes à ces gens-là parce qu'en revanche, ils peuvent avoir des aléas très importants en fonction des événements, des catastrophes naturelles que va rembourser leur société. Quand ça va bien, on leur verse beaucoup d'argent et c'est les sociétés qui, je vous le garantis, rémunèrent très, très bien leurs salariés. Donc le sujet n'est pas forcément une opposition. Il faut bien voir savoir que les dividendes, la valorisation de l'action, les rachats d'actions, tout ça, ça fait partie de la rentabilité globale du capital. Elle n'est pas nécessairement extraordinaire. Les dividendes, par exemple, quand on regarde sur une dizaine d'années, j'étais très amusé de voir ça, parce que c'était dans un rapport de l'agence publique, de l'agence des participations de l'État, qui disait qu'il faisait mieux que le CAC 40 en matière de niveau de dividendes perçus. Les dividendes du CAC 40, c'est 3,5% à peu près de la valeur de la société. Et ça, sur une moyenne des 10 dernières années. Ce n'est pas nécessairement considérable.
Cédric Durand ?
Oui. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans ce qui vient d'être dit, où on peut trouver des points d'accord et de discussion. La première, c'est l'idée qu'il y a cette fatigue du capitalisme qui explique que finalement, on préfère distribuer des dividendes que d'investir. Alors, on peut se poser, à mon avis, deux questions. Un, comment ça se fait que les entreprises puissent continuer à distribuer autant de dividendes alors même que l'économie ne va pas très bien? Et d'autre part, qu'est-ce qu'il fait qu'aujourd'hui elles n'investissent pas davantage? Quels sont le manque d'opportunités? Je vais d'abord, si vous voulez bien, d'abord poser la question de comment se fait-il qu'elles sont en mesure de distribuer autant de dividendes? Eh bien, il y a des effets
sachant de contexte. Sachant que la France apparaît plutôt dans le peloton de tête pour la distribution de dividendes.
Hein. Voilà, exactement. Alors, une partie de l'explication, à juste titre, a été évoquée tout à l'heure, c'est que les grandes entreprises n'opèrent pas seulement en France. Mais si on prend l'ensemble de la croissance mondiale, elle n'est pas très bonne dans la période d'après-crise. On est avec une récupération faible. Donc, l'idée qu'il y a beaucoup de dividendes pour peu de dynamisme économique est une idée forte et je pense sur laquelle on peut s'accorder. Donc, il faut trouver des facteurs pour expliquer ça. Et à mon avis, il y a trois principaux facteurs. Le premier facteur, d'abord, c'est qu'elles payent moins d'impôts. Ça, c'est quelque chose d'absolument flagrant. Le Financial Times a, par exemple, fait un rapport il y a quelques semaines en montrant que, dans le monde, depuis 2000, les grandes entreprises payent en moyenne 10% de moins d'impôts sur leurs bénéfices. C'était 34% en 2000, en moyenne, c'est 24% aujourd'hui. Et depuis la crise, la baisse s'est poursuivie. Donc, il y a quelque chose la baisse d'impôts, le rôle des paradis fiscaux est la première explication. On peut payer davantage des actionnaires quand on paye moins d'impôts. La deuxième explication, qui est aussi extrêmement importante, c'est le fait qu'aujourd'hui, les entreprises, elles font des économies sur leurs dettes. Elles s'endettent à très, très faible prix. C'est d'ailleurs ce qui leur permet parfois de ne pas faire de bénéfices et de continuer à verser des dividendes, parce qu'elles peuvent s'endetter gratuitement en fait. Engie aujourd'hui s'endette à peu près à 1,3-1,4% de taux d'intérêt sur 10 ans. Avec l'inflation, c'est rien du tout. On leur donne de l'argent gratuitement. Donc même si elles ne savent pas comment faire, elles le donnent à leurs actionnaires, c'est extrêmement bénéficiaire. Donc là, j'insiste un petit peu sur ce point-là, parce que l'argent gratuit ne vient pas de nulle part. Il vient de la politique de la Banque Centrale Européenne. Et la Banque Centrale Européenne, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Elle rachète pour 40 milliards de titres chaque mois. Elle rachète des titres de la dette publique, qui sont des titres sans risque, mais elle rachète aussi des titres des entreprises du CAC 40. Elle rachète des titres d'Engie, des titres de Total, etc. De ce point de vue-là, il y a une aide considérable qui est apportée aux grandes entreprises et aux marchés financiers en général, une forme de subvention publique par le biais de la politique monétaire.
Et puis il y a une troisième explication.
Et alors la troisième explication, c'est qu'il y a une pression accrue sur le salariat. Une pression accrue sur le salariat, alors on peut l'évoquer de deux manières. La première manière, c'est évoqué par M. Simon, c'est ce qu'on appelle les chaînes de valeur. Aujourd'hui, le salarié est fragmenté à l'échelle nationale et internationale, avec des sous-traitants qui sont très maltraités, où les salariés sont vraiment sous grande pression. Et là, on fait remonter les profits dans les grandes entreprises, mais également au sein des grandes entreprises. Les économistes du travail vous le disent, je vais peut-être m'arrêter là-dessus, les études empiriques le montrent très bien. Ce qu'on observe au cours des 20 dernières années, c'est une augmentation des situations de stress sur les salariés, qui va de pair avec moins d'autonomie et plus d'exigences de performance. Et bien voilà, c'est aussi de cette manière-là qu'on fait des profits.
Alors justement, je vais vous faire réagir là-dessus. Jean-Charles Simon reviendra sur la question de l'investissement juste après, parce qu'il y a énormément de questions abordées ce soir. Donc vous nous expliquez, Cédric Durand, en fait, ce qui permet aux entreprises de verser autant de dividendes. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, Jean-Charles Simon? Et surtout, pourquoi le font-elles? C'est-à-dire que si elles ne le faisaient pas, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que les actionnaires s'en iraient?
Alors effectivement, il y a des choses qui ont été faites pour encourager, mais pas pour rien, pour essayer d'encourager l'économie. Si vous dites le niveau de la croissance n'est pas formidable, je suis assez d'accord avec ce diagnostic. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer, surtout avec le niveau de dette dans l'économie mondiale, que le niveau de croissance pourrait être un peu meilleur. Or, il n'est pas exceptionnel du tout, mais il est loin non plus d'être horrible. On est dans pas mal de pays au plein emploi, dans des situations vraiment de marché et l'emploi tout à fait appréciables. C'est pas tout à fait le cas de la France, mais c'est le cas d'autres pays. Et on est à des niveaux de croissance qui pour d'autres raisons, sont finalement pas si mauvais que ça. Et depuis longtemps. C'est-à-dire que, par exemple, le marché boursier a beaucoup progressé sur la période qu'observe Oxfam dans son rapport, mais c'est une période, en effet, très favorable d'un point de vue économique. Par exemple, si on regarde l'économie américaine, qui est l'économie leader de l'économie mondiale. Après, ce qui est vrai, c'est que le fait que les banques centrales aient ces politiques depuis la crise, ça, c'est tout à fait juste. Ça aide les entreprises en matière... disons que ça diminue, toutes choses égales par ailleurs, la charge de la dette qu'elle supportait. Donc, comme elle regarde un peu le package d'ensemble intérêts et dividendes, bah, si vous avez moins d'intérêts d'emprunt à verser, forcément, vous avez plus de marge pour les dividendes. Et le troisième point sur lequel je suis d'accord...
Mais pourquoi reverser ces dividendes avant tout aux actionnaires? C'est-à-dire, est-ce que c'est une forme de contrainte?
Il faut en effet attirer le capital. Parce que le capital, c'est tout à fait indispensable, évidemment, aux entreprises, à toutes les entreprises. Mais surtout, si vous voulez, il y a toujours le risque que un mouvement de dépréciation, ce qu'ont pu connaître certaines entreprises, je reviens sur Engie, Engie effectivement verse des dividendes, mais si vous êtes actionnaire d'Engie depuis la crise, ça ne s'est pas très bien passé pour vous, parce que la valeur du titre, elle a beaucoup, beaucoup diminué. Donc vous avez beau avoir des dividendes, il faut rattraper la perte de valeur qui est liée au fait que, typiquement dans le cas de cette entreprise, il a fallu considérer que plein de projets dans l'énergie, puisque les prix de l'énergie s'étaient effondrés, valaient beaucoup moins cher. Donc il faut tenir compte de ça. Donc il faut continuer d'attirer des personnes qui viennent mettre de l'argent. Et parce que, effectivement, si vous voulez, la valeur proprement dite de l'entreprise, elle va s'exprimer avec un cours, avec un rapport de force entre vendeur et acheteur. Et cette valeur, elle va servir, au-delà de son intérêt intrinsèque, elle va servir à plein de choses. Elle va servir d'ailleurs, y compris, à de la rémunération d'une partie des salariés. Donc tout ça est important. Mais je voudrais dire quand même que sur les inégalités, sur ce qui avait pu être dit, parce que le dernier point sur lequel j'étais d'accord, c'est qu'effectivement la fiscalité a été plutôt plus favorable ces derniers temps, beaucoup plus à mon avis que les paradis fiscaux. Le sujet, c'est qu'il y a une course à la baisse de l'imposition sur les bénéfices dans pas mal de pays. Mais en revanche, ce qui m'étonne dans tout ça, c'est qu'on parle beaucoup du cas français, alors que le cas français est probablement un des pays les moins inégalitaires et l'un de ceux dans lequel l'évolution des inégalités a été la moins défavorable. Si on prend ce fameux partage salaire-capital, il s'est quasiment pas déformé depuis 30 ans et il est plutôt à des niveaux relativement hauts en comparaison internationale, même si ces comparaisons sont à prendre avec beaucoup de pincettes. Et par ailleurs, si on regarde à part justement le tout extrême des salaires, c'est-à-dire en fait une toute faible fraction des individus, le ratio des inégalités, par exemple si on regarde ce qu'on appelle le ratio interdécile entre le premier et le neuvième décile, c'est-à-dire les 10% de gens qui gagnent le moins, les 10% de gens qui gagnent le plus, on est à des choses également assez stables en France. Donc en fait la déformation, elle existe vraiment sur la toute pointe des 0,01% des gens les mieux rémunérés. Et donc en fait on n'est pas du tout dans une situation à l'américaine où là pour le coup la déformation est beaucoup plus sensible, comme ça a pu être montré dans certains rapports, à la fois dans le partage primaire et dans les inégalités de revenus.
Cédric Delorange, je reviens sur une des phrases qu'a prononcé Jean-Charles Simon. Il faut du capital, il faut attirer du capital. Est-ce que c'est ce qui justifie, est-ce qui vous semble justifier le fait que les dividendes soient à ce point redistribués aux actionnaires, davantage qu'aux salariés qui par ailleurs ont leur salaire bien sûr, et davantage qu'au réinvestissement? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est parce que peut-être en France on a un problème pour financer justement l'économie à travers le...
Non, il n'y a pas de problème de financement de l'économie. C'est très facile de s'endetter et les entreprises, n'importe quelle entreprise qui a des projets qui veut investir, gratuitement lui donne de l'argent aujourd'hui pour investir, ou quasiment gratuitement. Donc il n'y a pas de problème de financement de l'économie.
Mais quel intérêt ont-elle dans ce cas-là à verser autant de dividendes alors?
Voilà, on touche un point essentiel. C'est ce que André Orléans appelle le pouvoir de la finance. Qu'est-ce que le pouvoir de la finance? C'est quelque chose qui s'est construit petit à petit depuis la fin des années 70 et qui est le droit à la liquidité. C'est-à-dire le fait que si vous n'êtes pas content de la performance d'une entreprise, vous pouvez liquider votre investissement et aller le mettre ailleurs, dans une autre entreprise ou dans un autre pays. Donc ce pouvoir de la finance, c'est-à-dire cette capacité à mettre en concurrence immédiatement, en permanence et à l'échelle mondiale, l'ensemble des opportunités de rendement, est ce qui impose aux firmes d'assurer à leurs actionnaires un certain niveau de rémunération sous forme de plus-value ou de reversement de dividendes ou de rachat d'actions. Donc ça, cette contrainte, c'est très important de comprendre qu'aujourd'hui, si les entreprises doivent rémunérer les actionnaires, c'est pas parce que les actionnaires seraient rémunérés au juste titre de l'apport des capitaux qu'ils feraient qui permettrait le développement de l'économie. Pas du tout. Aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun financement par émission nette d'actions dans les économies développées. Par contre, effectivement, les actionnaires aujourd'hui ont la possibilité de repartir, de sanctionner les dirigeants. Et ils tiennent les dirigeants de cette façon-là. S'ils quittent une entreprise, le cours baisse. Si le cours baisse, les autres actionnaires ne vont pas être contents, vont débarquer l'équipe dirigeante. Ou alors, il va y avoir une OPA et l'équipe dirigeante va être remplacée par une nouvelle équipe.
Et donc, du coup, est-ce qu'il s'agirait de penser peut-être à un rééquilibrage justement sur la répartition des richesses? Ça, c'est possible? Ou bien est-ce que les entreprises sont à ce point dépendantes justement de la finance qu'elles sont pieds et poings liées, en quelque sorte?
Elles sont pieds et poings liées, les entreprises, aujourd'hui, mais il n'y a pas de fatalité à ça. C'est le résultat des politiques de libéralisation financière qui sont mises en place ces dernières années. Dès lors que vous supprimez la liberté de circulation des capitaux, que vous demandez une autorisation et que vous laissez, vous autorisez ou vous autorisez pas à faire circuler les capitaux, vous enlevez cette arme-là. Vous enlevez cette arme de pouvoir comparer en permanence et à tout instant les niveaux de rentabilité à l'échelle internationale. Donc ce pouvoir de la finance est vraiment le point central qui permet d'expliquer aujourd'hui des dividendes que rien ne justifie. Alors, bon, j'ai un autre, peut-être un autre point à développer.
Une réaction de Jean-Charles Simon, je reviens vers vous tout de suite.
Acheter une action, ce que chacun de nous peut faire ou a l'occasion de faire, parfois même sans le savoir parce qu'il a mis un peu d'argent sur une assurance vie ou sur quelque chose, c'est un placement financier comme un autre. Donc il faut qu'il ait un rapport de rendement. Et la grande loi de la finance, c'est que ce qui est lié au rendement, c'est le risque. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose qui n'est pas du tout risqué, ça chacun le comprend assez bien, vous avez en général des rendements assez faibles. Une action, c'est quelque chose de beaucoup plus risqué. Surtout si vous prenez une action d'une entreprise isolée, si vous apportez votre argent, vous achetez une action, il peut se passer des choses de manière très isolée. Je prends par exemple le cas Volkswagen. Quand Volkswagen a son scandale d'émission, d'un coup, l'action, elle perd 20%. C'est tout à fait majeur. Et donc, si vous êtes actionnaire, que vous avez investi la veille, évidemment, vous n'êtes pas très content. Donc, pour avoir accepté de faire cet investissement-là, vous demandez un certain rendement. Et dans ce rendement, il y a deux composantes. Il y a ce qu'on appelle le plus sûr, qui a priori est justement le dividende, qui est une forme comme de coupon obligataire qu'on vous distribue tous les ans. Et puis, il y a la valorisation de l'action, qui elle est très incertaine et qui dépend d'ailleurs pas du tout que de la société concernée. Donc, c'est pas du tout anormal, si vous voulez. Il y a des arbitrages. Alors après, je comprends bien ce qu'on peut contester, l'idée que c'est bien de permettre l'arbitrage à tout moment sur tous les marchés financiers de manière très interpénétrée. Moi, évidemment, ça me semble tout à fait excellent et favorable à l'économie, mais je comprends qu'évidemment, on peut être en désaccord là-dessus. Mais si on part de ma thèse que c'est positif, eh ben forcément, on a tous ces arbitrages, et tous ces arbitrages, ils vont faire qu'entre les marchés actions et les autres marchés, il va y avoir en permanence cette demande et ce besoin, et c'est là d'où va venir la politique de dividendes.
Oui, mais sauf que le temps auquel vont être sensibles les actionnaires n'est pas exactement le temps de l'entreprise. Il peut y avoir une impatience à obtenir un rendement, mais alors que l'entreprise a besoin de réfléchir sur le temps long. Dans le rapport Oxfam, justement, dans les préconisations, il y a l'idée de favoriser la fidélisation des actionnaires en pondérant les voies en fonction de la longévité, on va dire, de l'actionnariat. Oui, ce serait quelque chose d'intéressant?
Ça marche pas bien. Par exemple, il y a des entreprises dans lesquelles il y a ce qu'on appelle les droits de vote double. On n'a jamais observé que ça changeait quoi que ce soit, en fonction de la durée de détention, que ça changeait quoi que ce soit à la vie de l'action. En fait, il faut bien voir que en permanence, pour gérer votre argent, parce qu'à la fin des fins, c'est l'argent des citoyens qui est géré. Alors, il se trouve que c'est pas que des citoyens français, c'est des citoyens mondiaux, puisque dans le cas du CAC 40, il y a beaucoup du capital qui est détenu par des étrangers. Mais c'est bien l'argent de personnes physiques. Et c'est l'argent de personnes physiques qui est géré, et on essaie d'obtenir le meilleur rendement avec le moins de risque possible. Et ça, c'est des arbitrages en permanence, toute la journée, de manière infinie. C'est les fameux flux sur les marchés financiers. Et ça, forcément, on considère que cette logique-là est positive, eh ben, il est normal qu'il y ait en permanence ces arbitrages-là. Et là-dedans, les dividendes, ce n'est qu'un tout petit élément de la politique de rémunération et d'ajustement du couple risque-rendement des produits.
Cédric Durand.
Mais non, sur la question de la prise de risque, il y a une véritable escroquerie. Hein, puisque aujourd'hui, on fait comme si les actionnaires avaient droit à une rémunération extrêmement importante parce qu'ils seraient particulièrement exposés, que les salariés, eux, auraient une garantie sous forme de protection qui serait liée à leur emploi. Le problème, c'est que de plus en plus, aujourd'hui, la relation salariale, elle est fragilisée. Elle est d'abord fragilisée parmi les sous-traitants, hein, où le niveau de précarisation d'emploi à court terme est de plus en plus important, par l'importance du nombre de salariés qui sont en contrat intérimaire, hein, qui donc, dès qu'il y a un retournement de conjoncture, souffrent, ou alors même les salariés qui perdent leur emploi directement. Pensez aux salariés de Dia, par exemple. La gestion de Carrefour a été calamiteuse depuis le début des années 2000. Hein. Dès le milieu des années 2000, Carrefour s'est mis à distribuer énormément de dividendes et a arrêté d'investir. On a vu le niveau niveau d'activité ralentir. On a vu petit à petit l'outil être s'effriter, Carrefour vendre des magasins, etc. Aujourd'hui, les salariés, ils perdent leur emploi, une partie d'entre eux perdent leur emploi. Ils assument donc le risque bien plus que ne l'assume un actionnaire finalement, mais ils n'ont pas eu voix au chapitre dans la direction de Carrefour.
Est-ce qu'il aurait été intéressant justement peut-être de développer davantage, est-ce qu'il serait intéressant de développer davantage l'actionnariat salarié, ou bien qu'au contraire, ça serait ajouter, si je suis votre logique, Cyril Durand, du risque a déjà un autre risque.
Surtout pas l'actionnaire salarié, parce qu'effectivement, ça serait ajouter du risque à un autre risque. Par contre, les représentations des salariés au conseil d'administration, avec une voix importante, ça, c'est quelque chose qui a des effets. Alors, le problème, souvent, c'est que ça produit une segmentation du salariat, comme c'est le cas en Allemagne, si c'est pas généralisé. Mais les salariés, lorsqu'ils siègent, les représentants des salariés, lorsqu'ils siègent au conseil d'administration, là, ils pèsent sur les décisions. Alors, il y avait le deuxième point que je voulais aborder tout à l'heure et qui me semble tout aussi important, qui est sur le fait qu'il n'y a pas de projet, qu'aujourd'hui, et là on est d'accord là-dessus, donc ça me semble important d'insister là-dessus, le fait que les entreprises n'investissent pas suffisamment en tous les cas, et que ces dividendes finalement, ils alimentent une machinerie financière qui tourne en grande partie sur elle-même, ce que moi j'appelais le capital fictif. Et je voudrais là évoquer un personnage qui est important, qui s'appelle Paul Sweezy, qui était un des grands marxistes de l'après-guerre et qui faisait le lien entre monopolisation et stagnation. Et une des hypothèses pour expliquer la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, c'est qu'on a une forme d'oligopole mondial qui s'est constituée depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Et cette oligopole mondiale, elle est en mesure de garantir ses revenus. C'est des très grandes entreprises, des très grandes principales places boursières, parce qu'elle a des positions donc, de monopole. Elle a des revenus qui sont relativement garantis. Elle peut nourrir un actionnariat qui lui-même est très concentré. Dans un certain nombre, on a une monopolisation de l'actionnariat également. C'est faux de dire que les citoyens sont actionnaires. C'est une toute petite partie de la société qui bénéficie des actions. Et donc, grâce à cette fausse concurrence, ce capitalisme finalement extrêmement concentré, eh bien, il y a un mécanisme de centralisation des richesses qui passe par la distribution des dividendes.
Et du coup, qui ne nécessite pas peut-être des investissements comme en aurait besoin l'économie, Jean-Charles Simon ?
Il faut quand même nuancer tout ça. D'abord, j'ai regardé la série du taux d'investissement en France sur les dernières décennies. En fait, on est à un niveau, l'investissement a formidablement résisté pendant la crise. Le taux d'investissement des sociétés non financières françaises, c'est-à-dire grosso modo l'ensemble de l'économie, il est au plus haut depuis 1974. Donc on n'est pas du tout dans une faible période. On est dans une période, au contraire, où ça reste sur des niveaux très proches. Mais on n'est pas du tout sur un effondrement de ça. Ce qui est vrai, c'est qu'en revanche, il y a ces phénomènes de concentration du profit plutôt vers les grands groupes et de grands groupes qui, en effet, pour certains d'entre eux, ont un peu de difficulté à savoir. Plus exactement, ils ont du mal à trouver un meilleur projet d'investissement que de racheter leurs propres actions. Et ils se disent que parfois, le meilleur projet, c'est racheter l'action. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils n'ont pas d'idée, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'idée plus rentable que celle-là. Et ils n'ont pas d'idée plus rentable que celle-là parce que, et là on est dans une question beaucoup plus encore globale, elle a trait à l'innovation et au rendement d'un certain nombre de choses qui, dans certaines périodes, sont très prometteuses, dans d'autres le sont moins. Et contrairement au bruit que font tout un tas de choses du genre Vivatech ces derniers jours ou tout ça, en fait, le cycle d'innovation est beaucoup moins impressionnant qu'on le prétend. Et donc, les rendements espérés de plein de choses ne sont pas si élevés que ça. Et du coup, là, les entreprises, comme elles, justement, elles ont un bon rendement sur leurs propres actions, elles se disent, y a rien de mieux que de racheter mes propres actions.
Mais là, votre constat, à l'un et à l'autre, il va à l'encontre du pari qu'a fait le gouvernement.
Oui, c'est pas le cas de l'ensemble de l'économie, je le précisais.
En tout cas, s'agissant de la France, ce constat que vous faites, il me semble qu'il va quand même à l'encontre de ce pari, de ce projet qu'avait fait le gouvernement en revoyant la fiscalité du capital, en créant cette flat tax 30% sur le capital, en se disant, ça va permettre justement au capital de financer davantage l'économie. Il y a aussi ça, c'est-à-dire les dividendes qui sont versés. On ne sait pas si ils financent ou pas l'économie.
Je crois que c'est pas le sujet. Je crois que le sujet, il était vraiment la question de la compétitivité du site France et du fait qu'il y avait potentiellement de la fuite.
Ça a été quand même vendu comme permettant de financer l'économie, cette réforme.
L'idée, c'est évidemment que les gens investissent. Et ça va se passer. Je suis par exemple convaincu qu'avoir gardé un impôt type ISF uniquement sur l'immobilier et pas sur le reste, ça va plutôt faire des transferts où les gens vont vendre de l'actif immobilier pour avoir de l'actif mobilier, donc des actions, des obligations. Donc je pense que ça va exister vraiment. Donc c'est l'intention du gouvernement. Celle-là, elle me paraît saine, parce que l'immobilier me semblait, en termes relatifs, trop protégé.
Oui, mais si c'est uniquement pour enrichir les actionnaires...
Mais Oui, mais les actionnaires, alors là, encore une fois, je m'inscris en faux avec ce qui a été dit, parce que on a eu pas mal de points d'accord, mais je ne suis pas d'accord. Les personnes physiques sont les bénéficiaires ultimes des dividendes des actions. Alors, ce qui est vrai, c'est que selon les...
Ça dépend des pays. En France, en tous les cas, si on revient sur le cas français, d'abord, c'est une petite minorité.
C'est une minorité, mais elle n'est pas si petite que ça quand vous regardez l'ensemble des produits financiers investis en actions. Donc, ce n'est pas ridicule du tout. Et surtout, ça, c'est parce qu'on a fait le choix pour nos retraites de ne pas passer par les marchés financiers. On peut le déplorer. Moi, je le déplore. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de mon interlocuteur. Mais en revanche, si on avait fait ce choix-là, bah, on serait beaucoup plus connecté et aux actions et à l'investissement de long terme. Et on ne serait pas connecté d'ailleurs à l'investissement dans son entreprise. Parce que ça, en effet, mettre toute sa fortune dans son propre entreprise où on a déjà le risque éventuellement de perdre son travail, c'est en effet pas nécessairement une bonne chose. En revanche, si on investit dans l'ensemble des actions de son pays et d'autres pays, ça, c'est très positif. Et il me semble que ça, si vous voulez, c'est quelque chose qu'a raté la France il y a de ça maintenant près de 30 ans, quand elle s'est posé des grandes questions sur le système de retraite qu'elle choisissait. Je pense que là, évidemment, on a un rapport au marché-action comme s'il s'agissait de choses totalement éloignées de nous, alors que ça devrait être quelque chose de très proche de la vie de chacun, comme c'est le cas dans des pays comme aux États-Unis, au Royaume-Uni ou dans d'autres pays.
Cédric Durand, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le capital aille davantage vers l'investissement et enrichisse davantage l'économie qu'il ne le fait aujourd'hui?
Alors, il y a deux grands types de réponses qu'on peut apporter. Le premier, c'est type réglementaire. Il est clair qu'il faut, d'une certaine façon, brider la finance. Donc, brider la finance, c'est limiter sa circulation, réinstaurer de la viscosité, si vous voulez, dans les flux financiers, de manière à empêcher cet arbitrage de court terme en permanence. Ça, c'est le premier type de mesure à mettre en place. Le deuxième type de mesure, c'est augmenter la fiscalité sur le capital qui n'est pas réinvesti. Il y a une dizaine d'années, Frédéric Lordon avait fait cette proposition de SLAM. Shareholder, Limited, Authorized. Margin.
Je vais traduire.
C'était l'idée que, au-delà de la rémunération des actionnaires, au-delà de la prise de risque et du taux de rémunération de l'actif sans risque, eh bien l'État prenait tout. C'est une sorte de fiscalité sur le capital spéculatif ou le capital qui n'est pas lié à la prise de risque, à l'entrepreneuriat.
Eh bien faire ça. Mais là, vous savez ce qu'on vous répond, c'est que vous allez faire fuir le capital.
C'est pour ça que je vous ai dit d'abord qu'on allait mettre de la viscosité dans la circulation internationale. Donc une fois qu'on a fait ça, effectivement, on contraint le surplus à être réinvesti, à se développer. La troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, on a une action des pouvoirs publics qui est considérable, une intervention qui est d'un niveau inégalé à travers la politique monétaire. Chaque année, chaque mois, aujourd'hui, 40 milliards dépensés par la Banque Centrale Européenne, c'est l'équivalent à 25 millions d'emplois au SMIC qui seraient payés. Donc c'est vraiment quelque chose de colossal. Aujourd'hui, on met cet argent sur les marchés financiers pour soutenir la valeur des titres financiers. Si on mettait cet argent dans une banque d'investissement et qu'on finançait des projets, par exemple pour la transition écologique, ça la permettrait d'assurer une forme de plein emploi. Donc là, il y a, en gros, aujourd'hui, le capital privé n'assure pas l'utilisation du surplus qui est disponible. Il faudrait que l'État, avec des formes démocratisées de cet État ou des choix démocratiques sur les investissements à faire, prenne en charge les tâches dont on a besoin. Il y a un immense gâchis qui est d'une part la puissance monétaire qui est mal utilisée et d'autre part un chômage de masse qui persiste. Et aujourd'hui, c'est à la puissance publique de prendre ses responsabilités.
L'État est celui qui était à sa tête au moment de la crise financière, en tout cas en France, c'était Nicolas Sarkozy. Vous avez forcément entendu parler de sa règle des trois tiers s'agissant de la répartition justement des profits. Petit rappel, nous sommes en février 2009, il explique en quoi consiste cette règle.
Ça fait bien longtemps que je pense que la règle des trois tiers est une bonne règle.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que sur 100 de bénéfices, il devrait y en avoir 33 qui reviennent aux salariés, 33 qui vont directement dans la poche de l'actionnaire et 33 qui servent à être réinvestis dans l'entreprise parce qu'une entreprise, ça doit investir pour continuer à être compétitif. Mais
33.
Oui, mais attendez, c'est un ordre d'idée parce qu'en même temps, il faut mettre de la souplesse dans tout cela. C'est pas forcé qu'on doit avoir les mêmes règles dans chaque secteur, dans chaque branche, que ça pose également le problème des salariés qui sont dans des secteurs très difficiles où les marges sont très faibles. Mais moi, j'estime que c'est un sujet.
Nicolas Sarkozy en février 2009 dans l'émission Face à la crise, de la contrainte et de la souplesse pour diriger le capital là où il est le plus utile, Jean-Charles
Simon. Tout ce qui a été dit avant par M. Durand et là ce qu'on entend de Nicolas Sarkozy, ça me semble des très mauvaises idées. Tout ce qui contraint le mouvement du capital, sa circulation, c'est au contraire plus de frilosité, moins de croissance, plus de chômage. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et ce que fait la Banque Centrale Européenne, c'est au contraire pour faire en sorte que les gens empruntent moins cher et donc qu'il y ait plus de croissance, sinon ce serait évidemment bien pire. Et sans ce qu'ont fait les banques centrales mondiales, il y aurait eu une crise dramatique bien pire que celle qui a eu lieu en 2008-2009. Quant à la règle de Nicolas Sarkozy, je lui avais fait remarquer à l'époque que lui-même, en tant qu'actionnaire public, il était bien plus gourmand que ça, que le tiers qui voulait prendre comme actionnaire, qui prenait bien plus que ça des profits des entreprises publiques. En fait, cette règle, on revient sur la question du rapport d'Oxfam, elle n'a pas de sens tel que dit ainsi, parce qu'il faut comprendre que l'investissement et la rémunération des salariés, elles ne se font pas en partage du bénéfice, elles se font en amont pour l'essentiel ou en dehors de ce pur bénéfice comptable qui lui-même a un bout important qui revient aux actionnaires.
Merci Jean-Charles Simon, merci Cédric Durand d'avoir participé à cette discussion que vous pouvez réécouter comme chaque soir sur notre site internet franceculture.fr à la page du Gramou. Il y a une question qu'on n'a pas évoquée, ce sont aussi les missions de l'entreprise, mais je le rappelais en début justement, on a déjà évoqué cette question. Il y a tout juste 15 jours, on peut écouter les émissions, elles sont très complémentaires. Merci à toute l'équipe du Grain, Isolde Sicard, Antoine Tricot, Marine Beccarelli, Antoine Dulster et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Florent Bujon. La dispute ce soir, c'est avec Arnaud Laporte, comme tous les soirs, Arnaud.
Souvent, oui.
Vous avez l'air surpris.
C'est souvent moi.
Hein, oui.
On va parler de théâtre dans 3 minutes. En effet, demain, dans du Grain à Moudre et à Regardette.
Logement vite fait, mal fait. On va revenir sur un des aspects de la future loi Élan.
Très bien. L'élan que vous me donnez me permet de dire qu'il est 19h sur France Culture et qu'on va retrouver Aurélie Kiffer pour les titres de l'actualité.